Les deux époux sont prêts à se mettre à table. Ils dînent. Et le repas terminé, son épouse a tout débarrassé. Puis, comme d'habitude, elle laisse vider les détritus mis dans un paquet après avoir enfilé son par-dessus. La descente dans la cage d'escalier n'a pas la chance de retenir l'attention de l'hôtelier captivé ce soir-là vers les 21h30 par une pièce télévisée particulièrement prenante. À l'extérieur de l'immeuble, qui ce soir n'a pas descendu sa poubelle comme d'habitude, mais un simple paquet de détritus, a la décence de ne pas le déposer devant la porte, d'autant plus qu'aucune autre poubelle s'y trouve à ce moment-là, et va donc le déposer un peu plus loin, en face de l'immeuble, près de son bureau de gardiennage, pensant que d'ici le lendemain, les camions de la ville l'auront ramassé. Ceci fait, il monte chez lui. Mais cette fois-ci, mesdames, messieurs, l'accusé aura la malchance de se faire remarquer par monsieur qui s'empressera d'interpréter cette rentrée comme la première rentrée de la soirée. Il est maintenant environ 21h45, 22h tout au plus. Chez lui avec son épouse, tous deux se mettent au lit et finissent par s'endormir après avoir éteint toute lumière vers les 23h. Le lendemain, vers 8h du matin, alors qu'ils sont encore au lit, sa famille sont stupéfaits d'entendre tambouriner à leur porte et d'y voir pénétrer et la raffoler le beau-père accompagné de policiers auxquels il répond n'avoir rien fait, car depuis 20h30 hier soir, il n'a pratiquement plus quitté son domicile. Cet emploi du temps, banal, mais irréprochable par sa simplicité, l'accusation, vous l'avez entendu, a exploité un certain nombre d'équivoques dans le but de dénaturer tous les dires de l'accusé et de lui bâtir par là un autre emploi du temps, rendant plausible par lui la commission du crime. C'est ainsi, mesdames, messieurs les jurés, que selon le ministère public, sortant du bar une rue aux environs de 20h30 le soir du 18 octobre, n'a point repris la rue de la direction de son domicile, mais a bien emprunté la rue des direction du domicile de la victime. Je me dois, avant de poursuivre, mesdames, messieurs, de bien vous resituer l'emplacement de ce bar. Il se trouve à l'intersection de deux rues, plus exactement à l'angle de la rue et de la rue des Les deux côtés, le bar possède des baies vitrées, permettant en principe une visibilité dans les deux rues. La porte d'entrée se situe uniquement rue si bien qu'en sortant du bar et en tournant à gauche, on se dirige vers la rue de la et en tournant à droite, toujours de la sortie du bar, on se trouve aussitôt sur un petit carrefour permettant plusieurs possibilités, dont celle d'emprunter directement à droite la rue des en contournant le bar et en passant par conséquent devant sa baie vitrée. La conviction du ministère public sur la direction prise par l'accusé à la sortie du bar repose, mesdames, messieurs, d'une part sur la coïncidence de l'heure du crime et de celle du départ du et d'autre part sur le témoignage de monsieur qui prétend avoir vu son invité tourner à droite et non à gauche lors de sa sortie du bar. Ce témoignage, mesdames, messieurs les jurés, qui est d'une importance capitale, ne peut être sérieusement pris en considération car, par ses contradictions, il apparaît fort douteux. Monsieur Nervé est seul à pouvoir soutenir une telle affirmation. Dans sa déposition près le juge d'instruction, en date du 4 novembre, code D34 du dossier, monsieur le Président, soit très peu de temps après le drame, il affirme que a tourné sur sa droite lors de sa sortie du bar, qu'il a ensuite aussitôt emprunté la rue de direction rue de Il maintient de plus qu'il a pu le voir de l'intérieur du bar, passer devant les vitres donnant sur la rue des Or, mesdames, messieurs les jurés, ce témoignage apparaît quelque temps après complètement discrédité quand madame propriétaire du bar, dont je regrette d'ailleurs l'absence ce soir, a mis de surcroît avec le sieur affirme au juge d'instruction lors d'un procès verbal de confrontation en date du 17 que tous les soirs, vers 20h, la baie vitrée donnant sur la rue des et recouvert par des panneaux en forme, par des volets en forme de panneaux en bois repliables. Volets qu'elle ferme elle-même. Elle maintient de plus être certaine le sort du drame, que les volets étaient déjà fermés avant l'arrivée dans son bar de comme de le sion qui est également confronté dans ce même procès-verbal du 17 décembre modifie plus d'un an après le drame ses premières allégations en reconnaissant qu'il n'avait pu voir se passer rue des Phocéens car les rideaux en bois étaient bien fermés. Mais pour ne pas trop se désavouer, il maintient cependant l'avoir vu tourner à droite lors de sa sortie du bar. Ne pensez-vous pas, mesdames, messieurs les jurés, que nous sommes en droit de mettre en doute la mémoire de cet homme, pour ne pas dire sa bonne foi, quand il affirme 15 jours seulement après le crime que certaines choses très graves pour l'inculper, pour les contredire un an après, du fait de l'existence d'un autre témoignage allant à l'encontre de ce qu'il avait pu dire. Ainsi, comment dans ces conditions peut-on considérer sérieusement les dires de ce témoin quand il exprime sa certitude sur la direction prise par l'accusé à la sortie du bar et que parallèlement, vous l'avez entendu, il prétend ne plus se souvenir des personnes qu'il aurait pu inviter à consommer en même temps que le soir du drame. Mesdames, messieurs, je fais ici appel à votre bon sens, car comment est-il possible d'oublier les personnes que l'on invite à boire quand on prétend se souvenir de la direction extérieure à l'établissement prise par un invité qui quitte le groupe et qui, dès cet instant, devient sans importance pour ceux qui continuent à boire ensemble et y compris pour le dénommé. Car ce dernier connaît très peu l'accusé, lequel n'est par conséquent pas d'une très grande importance dans sa vie. S'il se souvient donc de ce menu détail de la direction prise par l'accusé, il ne peut pas, de toute évidence, ne pas se souvenir du nombre, voire même de l'identité des personnes qu'il aurait invité lui-même à consommer. Ainsi, mesdames, messieurs les jurés, voilà le genre de témoignage que va exploiter l'accusation pour vous convaincre que cet homme, le soir du crime, n'est pas rentré chez lui à 20h30 comme il l'affirme, mais a bien pris la rue des dans le but de tuer monsieur. J'espère que vous avez compris le peu de crédibilité que l'on peut accorder au dire de monsieur. Le second fondement de l'accusation, mesdames, messieurs les jurés, repose sur l'ordre de rentrée de l'accusé à son domicile. Celui-ci, je vous l'ai dit, est arrivé chez lui aux environs de 20h30, 20h40, c'est-à-dire au même moment, à quelques minutes près, où le véritable meurtrier donnait la mort à monsieur. Malheureusement, aucun témoin, hormis sa femme, ne pourra confirmer cette heure de rentrée de l'accusé, dont le passage dans le hall et la cage d'escalier n'ont été remarqués par personne, pas même par le tenancier, monsieur, lequel devait être probablement affairé ailleurs à ce moment-là. Or, monsieur, vous l'avez entendu, affirme avoir vu rentrer dans l'hôtel aux environs de 21h30, revêtu de son pardessus. Je reconnais que 21h30 est une heure de rentrée qui convient fort bien à la thèse de l'accusation. Mais n'en déplaise à cette dernière, la question mérite ici d'être beaucoup plus approfondie. Car, que s'est-il sûrement passé dans l'esprit de monsieur? À 20h30, la rentrée de une raison quelconque lui échappe. Vers les 21h30, monsieur est captivé, nous l'avons dit, par une pièce de théâtre télévisée, si bien que descendant son paquet de détritus, n'est point remarqué par l'hôtelier. N'oubliez pas, mesdames, messieurs les jurés, que l'accusé à ce moment-là est en survêtement, ce qui implique qu'il a ôté ses chaussures de ville pour se chausser de pantoufles ou de tennis qui, les unes comme les autres, permettent de marcher sans qu'on le veuille à pas de velours. Ainsi, aucun bruit suffisamment important se manifeste pour dériver l'attention psychologique du sieur fasciné ce soir-là par une pièce policière très très prenante. Si bien que quand quelques minutes plus tard rentrera et qu'il se fera cette fois-là remarquer par l'hôtelier, probablement en ouvrant la porte, que quelqu'un d'autre aura dû refermer entre-temps, Il aura toutes les apparences pour monsieur de l'homme qui rentre chez lui pour la première fois de la soirée. Et monsieur sera d'autant plus conforté dans sa conviction qu'il verra rentrer pour la première fois, rien dans les mains et revêtu de son pardessus. Mais ce qu'ignore monsieur à ce moment précis, c'est d'abord que c'est déjà passé deux fois auparavant sans qu'il le remarque. C'est ensuite que s'il n'a rien dans les mains, c'est parce qu'il n'a point descendu cette fois-ci comme d'habitude de sa poubelle, mais un simple paquet de détritus qu'il a abandonné. Et c'est enfin que son pardessus ne recouvre point, comme il le pense, une tenue de ville, mais une tenue de sport. Ainsi, mesdames, messieurs les jurés, monsieur lui est sûrement de bonne foi dans son témoignage. Mais il n'empêche qu'il se soit trompé dans l'interprétation de ce qu'il a dit. Cependant, le ministère public, mesdames, messieurs, semble quant à lui rejeter cette thèse en se raccrochant à un autre argument qui est celui de l'inexistence d'ordures jetées ce soir-là par l'accusé. Or, si monsieur l'avocat général se fonde sur les dires de monsieur quand celui-ci affirme qu'à l'aube du 19 octobre, vers 7 heures, il n'y avait devant la porte de l'immeuble aucun détritus jeté ni aucune poubelle de voisin, il devrait comprendre que c'est justement parce qu'aucune poubelle s'y trouvait qu'il n'a point déposé son papier devant l'hôtel. Et il devrait admettre par conséquent la version de l'accusé quand celui-ci certifie avoir jeté son paquet en face de l'immeuble, près de son bureau de gardiennage. Certes, il est vrai, je le sais, que même en cet endroit, on ne retrouva aucune trace du paquet, alors que les boueux n'étaient point encore passés dans le secteur. Mais devons-nous pour cela, mesdames, messieurs, en conclure que l'accusé a menti ? Je vous en conjure, ne soyez pas aussi actifs que le ministère public dans vos déductions. Éternelle victime des coïncidences et du mauvais sort. Et bien ennuyé pour vous, croyez-moi, que les policiers n'aient pas retrouvé ce paquet qui aurait pu vous convaincre de sa sincérité. Accablé par ce manque de chance, il ne voit qu'une explication à vous offrir. Celle d'un probable enlèvement du paquet par un des nombreux clochards qui le soir errent à travers ces rues à la recherche d'aliments mal consommés et encore comestibles. L'existence de ces clochards, mesdames, messieurs, le soir dans ces parages, ne fait aucun doute. Pourquoi alors mettre en doute une telle éventualité, surtout quand il s'agit de venir en aide à un innocent menacé de devenir la proie d'une impitoyable accusation? D'autant plus quand cette dernière, mesdames, messieurs, pour rester fidèle à sa conviction, reprochera encore à l'accusé d'avoir tardé le matin du 19 octobre à ouvrir la porte aux policiers. Elle interprétera ce retard comme une résistance désespérée d'un criminel qui se calfeutre dans ses murs avant d'être appréhendé. Encore, mesdames, messieurs, voyez avec quel empressement on est allé vers une telle interprétation. Si sa famille n'ont pas ouvert la porte à 6h45 aux policiers, c'est parce qu'ils n'ont rien entendu. 6h45, c'est tôt. Il n'attend personne. Depuis 23 heures, il dort. Il dort plongé dans un profond sommeil, le sommeil du juste, dirais-je. Le sommeil d'un homme qui n'a rien à se reprocher. Le sommeil d'un homme fatigué d'une lourde journée de travail. Et aussi, il faut bien le dire, d'un homme ayant bu la veille une dose d'alcool un peu trop élevée. On prétendra qu'il ne pouvait pas ne pas entendre une sonnerie aussi bruyante. Mais pour qui cette sonnerie était-elle bruyante, si ce n'est pour des hommes qui ont passé une nuit blanche dans le hall de l'hôtel, surexcités sûrement par tout le café qu'ils ont pu boire et par l'idée que certainement l'assassin se trouvait au-dessus, au quatrième étage? Pour qui la sonnerie était-elle bruyante, si ce n'est pour ces policiers qui se trouvaient juste à côté de la porte et qui pouvaient par conséquent percevoir toute la force du timbre de la sonnette placée au-dessus de leur tête de l'autre côté de la porte? Mais pour sa famille, plongée dans un sommeil aussi profond que serein, dormant de plus dans une pièce située à une certaine distance de la porte d'entrée, sans oublier que probablement la porte de leur chambre était aussi fermée. Pensez-vous que la sonnerie était pour eux aussi bruyante que le prétendent les témoins? D'autant plus, mesdames, messieurs, que quand la porte fut finalement ouverte par madame vers les 8 heures du matin, qui fut la première à être réveillée en sursaut, monsieur son père, qui le premier pénétra dans l'appartement, put constater que le petit Bruno, son petit-fils, était tout juste en train de se réveiller dans son lit. Et son témoignage, monsieur le président, se trouve dans sa déposition du 23 novembre, code D44 du dossier. Or, mesdames, messieurs, vous avez tous eu déjà de jeunes enfants. Vous savez donc à quel point est sensible le sommeil d'un enfant. Ne pensez-vous pas que si la sonnerie était si audible qu'on le prétend, que le jeune se serait mis à pleurer? Par ailleurs, pensez-vous vraiment que si il était effectivement réveillé comme ses parents pendant le tapage, qu'il était en mesure et en âge de jouer la comédie de l'enfant qui se réveille à l'entrée des policiers? Non, non, tout cela ne tient pas et apparaît contradictoire. Et puis quel intérêt l'accusé pouvait attendre d'un tel comportement? Si vraiment il était coupable, seules deux solutions s'offraient à lui. Soit de chercher à fuir de chez lui pendant la nuit, ce qui ne fut pas le cas, soit de présenter toutes les apparences de l'innocent, c'est-à-dire en l'occurrence, de jouer le rôle de l'homme qui vient de se réveiller, perturbé par des coups de sonnette, mais sans attendre plus d'une heure avant d'ouvrir la porte. L'accusé coupable ne pouvait pas, mesdames, messieurs, se permettre le luxe d'offrir aux policiers une telle présomption de culpabilité. Car coupable, l'accusé aurait entendu les coups de sonnette, et cela parce qu'il les aurait attendus. Coupable, l'accusé, mesdames, messieurs, n'aurait pu dormir d'un sommeil aussi innocent. On objectera enfin d'avoir déclaré spontanément au policier entré dans son appartement la phrase suivante. « Que me voulez-vous? Je n'ai rien fait. Je suis rentré à 20h30. » Et cela, sans que les officiers de police lui aient posé la moindre question. Cette réaction verbale de l'accusé sera encore mal interprétée par l'accusation, qui verra ici la manifestation de quelqu'un qui a peur et qui, maladroitement, avant d'attendre la question pressentie, donne la réponse d'un alibi cadrant bien avec le drame de la veille. Cette spontanéité verbale sera donc considérée comme une maladresse ayant le reflet d'un aveu implicite. À cela, j'ai à répondre que l'accusation connaît mal le déroulement de cet épisode. En effet, la phrase reprochée à l'accusé n'a pas été aussi spontanée qu'on veut bien le faire croire. La première personne ayant pénétré dans l'appartement, et cela, monsieur l'avocat général, vous ne pouvez le contester, ce n'est point un de vos officiers de police sur qui vous vous appuyez pour fonder votre argumentation, mais c'est monsieur son beau-père. Or, qu'a déclaré monsieur au juge d'instruction? Simplement cela. Quant à mon gendre, il était couché. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Voulant lui demander pour quelle raison la police était à ses trousses. Il m'a répondu exactement, je n'ai rien fait. Vous comprendrez fort bien, mesdames, messieurs les jurés, que quand quelques secondes après apparaît à la présence de deux policiers, présence suffisamment éloquente par ailleurs pour comprendre ce qu'on vous veut sans qu'aucune question vous soit posée. Vous comprendrez donc que ça n'a fait que réitérer instinctivement la réponse relative à la question de son beau-père, en regardant cette fois les policiers qui crurent aussitôt à une réaction verbale gratuite de la part de l'accusé. J'arrêterai ici, mesdames, messieurs, pour ne pas trop vous importuner, ne pas trop abuser de votre patience, de vous démontrer la cascade d'équivoques exploitée si habilement par le parquet, pour qui le souci de vous offrir un coupable ce soir s'avère être le souci majeur. Mais ce coupable ne doit pas être trouvé à n'importe quel prix, et surtout pas au prix de risquer de condamner un innocent. Cela, vous le savez. Vous connaissez votre rôle, qui est celui de juger en toute impartialité, selon votre plus profonde et intime conviction. Et encore tout à l'heure, lors de la délibération, certains parmi vous avaient des doutes sur l'innocence de monsieur dans cette triste affaire qu'il n'oublie pas que, vu l'importance de l'enjeu, ces doutes doivent toujours bénéficier à l'accusé. Monsieur le Président, messieurs de la Cour, mesdames, messieurs les jurés, je vous fais donc confiance pour rendre ce soir au petit Bruno, sans plus tarder, son cher père, si injustement poursuivi jusqu'à présent par le destin et par les hommes. Je vous remercie.